Nous allons poursuivre par notre sujet principal intitulé Parcours libriste. L'idée est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Un parcours individuel, certes, mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Notre invitée du jour, Agnès Crépet, responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, cofondatrice de Ninja Squad et de la conférence Mixit, membre de l'équipe de Duchesse France. On vous reparlera de tout ça, évidemment, dans le cours de l'émission. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat. Bonjour Agnès.
Bonjour, bonjour.
Alors, c'est un grand plaisir de t'avoir une nouvelle fois dans cette émission, mais là, pour un sujet un petit peu différent, vu qu'on va parler un peu de ton... Enfin, on va parler de ton parcours. Alors, en général, la première question qu'on pose dans les sujets principaux, c'est une question de présentation traditionnelle. Même là, l'émission va être un peu consacrée à ton sujet. Mais ceci dit, j'ai envie de te demander comment tu te présentes quand tu es, par exemple, invité dans une... quand tu arrives dans une soirée ou quand tu rencontres des personnes et que ces gens te demandent ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu leur expliques ?
Ouais, ça peut dépendre un peu de l'audience, mais ouais, je dis que je travaille dans la tech, voilà. Après, je présente les boîtes pour lesquelles je bosse en ce moment, donc principalement Fairphone quand même, même si je fais partie de Ninja Squad, comme tu l'as bien présenté. Et j'essaye vite d'introduire un peu la spécificité de ces boîtes, quoi. Le fait que on essaye de travailler à une tech un peu différente, une tech plus inclusive, qui fait plus d'open source et qui est pas solutionniste, voilà.
D'accord.
Pour faire court. Hein.
Pour faire court. De toute façon, on va revenir là-dessus. Alors on va pas parler, on va pas évoquer tout ton parcours, mais j'aimerais quand même savoir. Alors on va rien cacher. Tu es né dans les années fin des années 70, donc jeunesse, adolescence dans les années 80. Et quand tu étais jeune, est-ce que tu as rapidement voulu faire l'informatique ou est-ce que tu étais intéressé par d'autres choses? Par exemple, dans les métiers que tu voulais faire, quels étaient les métiers que tu voulais faire à l'époque quand tu étais jeune?
Moi, je voulais te faire médecin légiste. C'est bizarre, hein?
Ah, c'est bizarre, oui.
Je pense que je lisais des romans quand j'étais petite, autour des sorcières, des choses un peu glauques comme ça. Donc, je voulais faire médecin légiste. Après médecin, donc c'est vrai que c'est loin de ça, hein, ce que j'ai fait au final. Mais j'étais pas du tout baignée dans un contexte où ma mère ou mon père m'avait plongée dans des ordinateurs, dans des Atari. Enfin bref.
D'accord.
J'étais loin de la technique au final.
D'accord. Donc médecin légiste. Pourtant, est-ce qu'on m'entend bien là? Parce que j'ai l'impression qu'on... Ouais, bon, ok.
On t'entend très bien.
Ok, ouais. D'accord. Non, mais ce qu'en fait, mais je te précise que les deux personnes qui sont en régie sont en train de jouer avec les boutons. Il y en a une qui est en formation. Donc voilà. On prend des risques pour la dernière émission, mais j'ai toute confiance. Dernière émission de la saison, évidemment. Ceci dit, oui, je disais que tu as tout de même fait un bac scientifique, hein, spécialité maths. Enfin, ouais. Donc qu'est-ce qui t'a amené finalement là-dessus? Est-ce que c'est un hasard ou simplement tu t'es intéressé par les sciences?
Ouais, j'aimais bien ça. Non, mais j'ai toujours aimé les maths, quoi. Ça, c'était un truc que je trouvais assez cool. Mais après, j'étais pas une ado avec une grosse passion pour une discipline, en fait, que t'apprends à l'école. Tu vois la chanson de Diams, là.
Laquelle?
C'est pas l'école qui m'a dicté les codes ou un truc comme ça, là.
D'accord.
La boulette, c'est ça. Tu vois, là.
Oui, tout à fait.
Bon, tu pourras pas la passer parce que je pense pas qu'elle soit en Creative Commons, mais
non.
Tu vois, cette chanson, c'est pas l'école qui m'a dicté les codes, j'étais vraiment là-dedans. En fait, l'école, pour moi, c'était ma bande de potes, aller voir les concerts, je faisais beaucoup de temps, je parle de l'adolescence, tu vois, lycée, quoi. Donc, c'était vraiment, on va dire, le côté social, le fait que ça t'amène à rencontrer des gens différents. Moi, je vivais dans une working class city, tu vois, Saint-Etienne, voilà, beaucoup de diversité, quartier ultra populaire. Donc, pour moi, c'est ça, mon adolescence, en fait. C'est pas tant ce que j'ai appris à l'école. J'avais pas vraiment de passion pour les études que je faisais. J'étais bonne en maths, donc tant mieux, à la rigueur, parce que ça roulait à peu près, quoi, tu vois. Mais c'est plus... quand je pense à mon adolescence, là, on va dire 14, 16, 17 ans, c'est vraiment la découverte du monde culturel alternatif, politique, anarchiste, voilà. C'est plus ça que de m'éclater sur un truc d'école, quoi. Même à l'époque, tu vois, je suis pas sûre... oui, j'avais ce truc de médecin légiste toute petite, hein, parce que tu m'as posé la question, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, c'était plus... médecin légiste, c'était plus sur des âges 8, 10, 12 ans, tu vois. Mais après, rapidement, je pense que... Je sais même pas si je me voyais bosser, quoi, tu vois.
D'accord.
Honnêtement.
Alors, tu parles de cet aspect-là, justement, social, politique, culturel. Qu'est-ce qui t'a amené, est-ce que c'est cet environnement-là qui t'a amené à faire finalement le choix ensuite, après le bac, de l'informatique? Parce qu'après, tu as fait d'informatique et même à haut niveau.
Ouais, bah, je pense que c'est effectivement lié parce que donc j'ai commencé à organiser des concerts punk, des concerts de rock, on va dire, avec une asso de la ville où j'habitais, donc Saint-Etienne, cette fameuse Working Class City. Et il y avait une asso qui s'appelait Mats Collectif, qui est devenue Avataria plus tard, et qui organisait des concerts très underground dans des sites industriels. Saint-Etienne, c'est une ville minière, donc voilà, on organisait des concerts dans cette espèce de site, d'ancien site minier. Côté un peu dark et tout, j'aimais bien ça. Et c'est des gens, en fait, que j'ai rencontrés qui étaient un peu plus âgés que moi, ceux et celles avec qui j'ai monté cette asso, qui organisaient des concerts, et c'est des gens qui étaient assez sensibles à l'informatique libre. Donc, parmi elles et eux, il y avait voilà, cette ambition d'être entre une hybridation entre, on va dire, la musique un peu extrême voilà, et le fait de promouvoir l'informatique libre. Donc, je trouvais l'hybridation assez intéressante, d'ailleurs. Il y avait on faisait aussi quelques conférences, donc des gens de Samizdat qui nous avaient rejoints, rejoints pour des événements qu'on organisait. Samizdat, tu vois ce que c'est, Frédéric?
Moi, je vois, mais explique ce que c'est Samizdat, ouais. Parce que moi, je vois bien,
donc,
mais...
Ouais, Samizdat, ça avait été lancé par un mec qui s'appelait Aris Papatheodorou, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Voilà. Enfin, ils étaient plusieurs. Il y avait Aris Papatheodorou, Pedro, je ne me souviens plus de son nom de famille. Ils étaient plusieurs, effectivement.
Ouais, voilà. Et on va dire que c'était une association qui essayait d'œuvrer pour... Ben justement, eux, ils étaient entre... ils n'étaient pas anti-tech, mais on va dire qu'ils essayaient de montrer un côté de la tech ou de l'internet qui pouvait faire rêver les anarchistes, on va dire, en gros. Donc des gens comme nous, quelque part à l'époque. Donc un environnement où on pensait qu'il y avait des zones libres dans le cyberspace, quoi, qui pouvaient être intéressants à occuper en tant qu'anarchistes. Voilà, je caricature, en tout cas, c'était ma lecture de la chose. Et puis c'était des gens qui bah, voilà, faisaient beaucoup de conférences, organisait beaucoup d'événements autour de ces thématiques-là, etc. Et on s'est vite rapproché d'eux, en fait. On bossait pas tout le temps avec eux, mais on s'est vite rapproché d'eux parce qu'à cette époque-là, fin des années 90, bah, quelque part, on n'était pas très nombreux à faire des choses comme ça, quoi. Et Samizdat a contribué, en fait, à... C'est pas les seuls, mais à essayer d'impulser ce principe de médias alternatifs aussi. Alors c'est rigolo parce qu'Aris Papatheodorou, je crois qu'il a fini au Monde.
De mémoire, il est graphiste.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Alors, par contre, mais bon, moi, c'est un mec pour qui j'avais quand même assez de respect voilà, à l'époque. Et du coup, c'est les premiers médias alternatifs avant Indie Media. Indie Media, c'est un média alternatif qui est né dans la fin des années 90 à Seattle, suite à des violences policières qui sont assez fortes. Parce que des manifestants, manifestantes sont présentes au sommet de l'OMC à Seattle.
De l'OMC, de l'UFMI, donc Organisation ouais, mondiale du commerce et Forum mondial. Qu'est-ce que c'est, l'UFMI déjà? Forum mondial. Je me souviens plus.
Et du coup, t'avais des bon. Donc t'avais ces violences policières qui étaient, on va dire, en direction de toutes ces organisations. Enfin, les manifestants étaient présents pour dénoncer voilà, ces organisations comme l'OMC, le Front Monétaire International, tout ça.
FMI,
pour
c'est
montrer que c'était... que ce n'étaient pas les organes appropriés pour avoir un monde meilleur, je caricature. Et ces manifestations se font réprimer dans le sang, vraiment. Première grosse violence policière qui ne sont absolument pas divulguées dans les mass médias. Ou très très peu. Et donc du coup, tu as cette ambition de citoyens qui se disent bon, bah, on va faire quelque chose et on va essayer de monter des médias alternatifs pour essayer de montrer l'autre face, à savoir bah, le fait de communiquer sur le fait qu'il y a eu ces violences policières. Et les réseaux indie médias, donc pour moi, Samizdat, ça rentre un peu dans ces choses-là, sur les années 90, dans ces projets-là. Et Indie Media a résulté dans plein de petites et grosses villes dans le monde entier qui montent ces relais locaux, quoi. Donc ces sites web, principalement basés sur des logiciels libres comme Spip, d'ailleurs, notamment en Europe, et qui contribuent à donner la parole à des citoyens, citoyennes, pour essayer de relayer non pas la parole, on va dire, dominante, qui est, elle, relayée par les médias de masse, mais qui essaye de relayer la parole des citoyennes et des citoyens. Donc, moi, je rentre un peu là-dedans, en fait, à travers cet asso qui organise des concerts, tout ça. Je commence à rencontrer un peu ce monde-là des médias alternatifs, Samizdat, Indie Media. On monte notre réseau alternatif à Saint-Etienne qui s'appelle le Numéro Zéro et qui existe toujours et qui fait partie des réseaux mutus qui font, qui regroupent tout un tas de réseaux alternatifs encore en France aujourd'hui. Donc, t'as plein de villes aujourd'hui en France qui proposent un site web où d'autres informations sont divulguées, ce que tu vas pas retrouver dans le Progrès ou dans le journal local, quoi. Donc, dans le réseau Mutu aujourd'hui, t'as Angers, Brest, Grenoble, Dijon, Lyon, Paris, Saint-Etienne, enfin bref. T'as plein de villes. Et pour revenir à, justement, il y a 20 ans, quoi, même un peu plus maintenant, eh bien, quelque part, c'est mon entrée dans le monde de la tech, quoi. Donc, je me rends compte que finalement, la tech peut être un outil intéressant pour lutter. Voilà, et c'est ça qui me donne envie de faire des études. Donc, quelque part, moi, je te dis, j'étais pas une grosse passionnée de physique, de maths. Ça me plaisait, mais on pouvait pas dire que c'était ma passion, hein, au lycée. Mais je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire dans l'informatique. Ça peut être un truc qui m'éclate bien sûr comme outil politique, en fait. Voilà.
D'accord. Donc, c'est très intéressant parce que finalement, dès le départ, tu n'es pas venu par la technique, par le goût de la technique en fait, mais par plutôt les aspects effectivement politiques. Alors, on va préciser que tout à l'heure, tu as parlé de SPIP, juste une petite incise. Donc, SPIP, c'est un logiciel libre qui permet de créer des sites web et qui est développé depuis une vingtaine d'années et qui a été créé aussi par des militants et des militantes. Et par exemple, le site de Libre à vous de l'émission est géré sur SPIP. Donc, pour revenir donc à ses débuts, donc finalement, t'es arrivé donc par le côté politique, création de sites web à travers donc Indie Media, Samizdat, le Numéro Zéro, et ce qui donc t'a poussé finalement à te, en fait quelque part tu t'es dit, savoir faire des sites web, savoir faire de l'informatique, ça va me permettre finalement de mettre en place des outils à l'usage de mon militantisme et de mes intérêts politiques en fait, et c'est ça.
Bah, disons que la présence sur web était identifiée à l'époque par mes potes et moi, comme, et puis tous ces réseaux dont que tu viens de citer, comme étant une solution intéressante pour arriver à s'organiser en tant que mouvement d'extrême gauche, etc., de médias alternatifs. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui m'a guidée dans ce choix-là, je pense, aujourd'hui, rétrospectivement. C'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qui t'a vraiment guidée. Mais il n'y avait pas que ce goût pour la technique. Après, il y a eu ce truc-là, parce que tu vois, on a commencé, là je te parle des sites web, mais on a fait beaucoup aussi de Linux. Parti, donc on avait des projets avec Stasso où on prenait des vieilles bornes d'arcade, on l'évitait, on mettait un ordi dedans sous Linux, on installait ça dans des bars, dans des lieux, parce qu'à l'époque c'était compliqué d'avoir accès à internet, donc du coup on mettait ça sous Linux et on proposait des accès à internet gratuits dans des lieux culturels comme des bars, des lieux de sociabilité. Et puis on faisait beaucoup de Linux Party pour inciter les centres sociaux, etc., d'installer Linux dans leur parc informatique. Donc là, j'ai commencé quand même à tremper un peu les doigts dans tout ce qui est tech, un peu plus. Donc là, on parle, je sais pas, je dois avoir 17, 18 ans, un truc comme ça. Et là, je commence à vraiment bien aimer. Mais c'est pas le premier driver, quoi. Le premier driver, c'est vraiment le côté politique.
D'accord. Alors, je précise aussi qu'on s'est rencontrés à cette époque-là, en fait, dans le cadre notamment de l'association.
Vrai,
oui, non, mais voilà. Moi, j'ai. Peut-être que ça nous vieillit un petit peu, mais en fait, on s'est rencontrés effectivement dans ce cadre-là, notamment dans le cadre de l'association.
Oui, je t'avais invité, c'est ça ?
Voilà,
c'est,
tu m'avais invité, effectivement, et dans le cadre du festival donc de l'association Avataria. Donc, effectivement, c'est moi ce qui m'avait effectivement à l'époque impressionné, c'était ce militantisme et effectivement, c'est toutes les solutions que vous mettiez en œuvre. Donc, ça, c'est l'association. Je précise qu'on mettra tous les liens en ligne sur le site de l'émission parce que voilà, les gens, que ce soit Indie Media, SPIP, Numéro Zéro ou Samizdat, alors j'espère que ce site existe encore, Avataria, dont tu as été la présidente à un moment. Donc il y a cette on a compris pourquoi tu étais venu finalement à la technique, à l'informatique. Donc tu fais des études, on va passer rapidement, mais en fait tu finis quand même par un DEA sciences cognitives, t'as un master spécialisé en informatique option génie le logiciel réseau, donc à l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, donc dans les années 2000. Et donc après tu dois, bah, comme beaucoup de gens, éventuellement chercher un travail, même si c'était pas forcément peut-être mais est-ce que quand tu as cherché ta première activité professionnelle, tu t'es dit je vais chercher n'importe laquelle ou plutôt quelque chose qui va m'intéresser techniquement? Est-ce que dès le départ tu t'es dit je voudrais essayer de mixer, en tout cas de mettre en adéquation mon militantisme, mon activité professionnelle? Comment ça s'est passé, tes premiers pas dans le monde professionnel?
Alors déjà, bon, j'ai beaucoup itéré, donc Alors, effectivement, tu as dit, j'avais à la fois un DEA puis un diplôme des mines. Donc les DEA, je me suis posé la question, est-ce qu'un PhD, ça serait bien ou pas? Est-ce que ce serait intéressant ou pas de faire une thèse? Et puis, je ne me voyais pas en fait. J'avais fait mon mémoire de DEA, donc je travaille dans l'informatique, plutôt l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle, j'étais dans un labo lyonnais. Dans un labo, à côté de nous, il y avait un labo robotique et nous, on était un labo d'IA pur. Et autant le sujet était intéressant, mais le contexte, on va dire, tu vois, encore je reviens au côté sociabilité, comment tu parles à des gens et tout ça, c'était pas l'éclatant en fait. Et moi, je pense qu'à cette époque-là, j'étais drivée par ça en fait. Est-ce que c'est fun ou pas? Toi, c'est un peu bizarre hein, de dire ça, mais.
Non, non.
Enfin, un peu bizarre, c'est pas bizarre, mais tu vois, c'est pas. Il n'y avait rien de très intellectualisé, quoi. Donc, en gros, je m'éclatais pas, je vais me casser. En gros, voilà, c'était ça. Le DEA, je développais en C. Donc, heureusement, j'avais une meuf. D'ailleurs, on reviendra sur cette meuf qui s'appelle Emmanuelle, qui m'avait beaucoup aidée. Elle était en doctorat, elle, et moi, j'étais en DEA. Donc, elle me drivait beaucoup, elle m'avait beaucoup inspirée. Tu vois, c'était une bonne codeuse en C. Elle m'avait vraiment appris des trucs que je connaissais pas. Donc, ça m'avait montré comment il y avait des meufs dans ce métier-là. Ça, c'était cool. Mais le contexte au-delà de cette meuf, je me suis vraiment pas fait de pote et je trouvais ça un peu austère en fait. Le labo où j'étais, peut-être que je suis mal tombée, hein, je dis pas que c'est tout pareil, pas du tout. Mais en tout cas, le mien était pas très drôle. Donc j'ai eu une bourse de thèse. Parce que tu sais, à l'époque, en fonction de tes résultats de DEA, de qui t'encadrait dans ton DEA, enfin bref, ça jouait. Et bref, je me retrouve avec une bourse de thèse et en fait, je ne l'ai pas voulu. Je l'ai refusée. Je me suis dit, je vais plutôt aller sur un diplôme professionnalisant et je vais aller bosser tout de suite, quoi. Et donc, j'ai eu effectivement ce diplôme de l'école des mines où là, je me dis, après ce diplôme de l'école des mines, je me dis, bon, là, vraiment, j'ai fait du réseau et du code pendant longtemps. C'est bon, je suis prête à aller bosser. Mais tu vois, le truc un peu schizophrénique qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que, autant je viens de te décrire voilà, le côté très militant où j'étais, et d'ailleurs je suis toujours assez inscrite dans plein de mouvements différents, le boulot, je me disais, bah, je vais prendre un boulot un peu, enfin tu vois,
Qui fait manger
de
quoi?
9h à 5h, assez classique, où je vais programmer, et puis c'est cool, et puis peu importe le contexte, de toute façon on sait très bien que le boulot c'est de la merde. Enfin, je caricature un peu, hein, mais tu
Oui.
vois, je ne m'attendais pas à pouvoir trouver un boulot qui puisse à la fois correspondre à quelque chose que j'aime au niveau de mes valeurs, quoi, et à un boulot techniquement intéressant. Je pensais vraiment que le boulot, c'était la mort, quoi. Au niveau politique et au niveau environnemental, qui t'entoure, quoi. Donc j'ai pris un job, un peu le premier que je trouvais, chez un éditeur bancaire. Donc tu vois, quand même, hein. Et là, je me suis vraiment éclatée techniquement parlant. Mais éditeur bancaire, quoi. Donc aucun intérêt. Enfin, je veux dire, je codais des algos. Alors j'ai fait un peu de crypto, ouais, un peu de sécu. Ça, c'était rigolo. Mais je veux dire, voilà, c'est aucun intérêt sur le monde, quoi. Même tu comptes, t'as un impact négatif en fait sur le monde. Et c'était un peu schizophrénique parce que bah, quelque part, je pense que j'acceptais ça et parce que je voyais pas vraiment d'autre issue en fait. Dans l'école d'ingé où j'ai fini mes études, on était biberonnés à de toute façon, c'est ça qu'il faut. Tu quittes tes études, tu vas prendre un CDI quoi. Et c'est ça la vie quoi, tu vois. Et en fait, je pense que ça m'allait un temps parce que ben, moi, ouais, j'avais mes activités militantes à côté, mais je pense que j'en ai rapidement vu la limite quoi. Donc j'ai voulu un peu changer d'environnement, mais ça a pris quand même du temps.
Ça a pris combien de temps en fait?
Bah après l'éditeur bancaire, je suis rentrée dans une ESN, ce qu'on appelait avant une SS2I, où là, bon, c'était un peu plus libre, j'avais des domaines métiers différents, j'ai pas que bosser pour des banques, heureusement, mais bon, je me suis tapé des missions de merde, quoi. Et je me souviens avoir démissionné le jour où, enfin, ou à la fin d'une mission chez Total, le jour où ma boîte signait pour Monsanto, enfin bon, bref, là, j'ai dit, ouais, c'est bon, là, je me casse. Je peux pas, là, même si c'est pas moi qui vais en mission pour Monsanto. Je m'étais quand même tapé 2 mois de mission chez Total. À faire techniquement des choses super, hein. Enfin, moi, je me suis jamais ennuyée, en fait, dans ce genre de job. Au contraire, je me suis toujours éclatée parce que, ben, voilà, c'est pas parce que tu bosses pour Total que tu fais des trucs inintéressants techniquement. Mais par contre, voilà, à 26, 27 ans, j'ai vite vu les limites éthiques où je me sentais quand même le cul entre deux chaises, quoi. Voilà, en gros, je vais méditer le soir et le week-end sur des trucs très, très extrêmes, enfin très extrêmes, très engagés, voilà, sur comment construire un monde meilleur, comment lutter contre le néolibéralisme et tout ça. Et puis la journée, je me retrouve à faire des missions pour Total.
Donc t'as voulu mettre de la cohérence quelque part. Est-ce qu'il y a eu, à part cette réflexion, est-ce qu'il y a eu un événement ou des événements qui t'ont fait basculer pour te dire, bah, je vais essayer de te mettre un terme à cette schizophrénie, comme tu as dit?
Ouais, bah écoute, ouais, avec le copain que j'avais, on s'est dit, bah, on va arrêter de bosser. Donc, ça faisait à ce moment-là 8 ans, 9 ans qu'on bossait déjà, tous les deux. Et on s'est dit, bah, on va arrêter. Voilà, on va arrêter de bosser et on va essayer de voyager un peu. Donc, pendant un an, on a voyagé pour aller rencontrer des développeuses et des développeurs partout dans le monde, donc pas dans les pays occidentaux si possible. On a fait quelques-uns aussi des pays occidentaux, mais on n'a pas fait que ça. Donc, on a fait l'Afrique, on a fait l'Asie, un peu l'Océanie, les États-Unis aussi. On n'était encore pas totalement en rupture avec le rêve de la Silicon Valley. À cette époque-là, ça nous a encore rêvé. On avait un pote qui bossait à Mountain View chez Google. Tu vois, on l'avait visité quand même. Donc, je sais pas. Ça me fait rire aujourd'hui. Je me dis, putain, mais c'est quand même dingue. Mais voilà, on était encore, je pense, pas en rupture totale avec ces modèles-là. Mais par contre, on voulait aller s'inspirer d'autres trucs. Donc, c'est pour ça qu'on a passé du temps en Afrique et en Asie. Et là, je pense qu'on s'est pris une grosse claque. Donc une grosse claque à deux niveaux, donc sur les gens qu'on a rencontrés en Afrique et en Asie. Donc en Afrique, on a rencontré on faisait une mission, en gros on donnait des cours de Java à des gens qui étaient plutôt sysadmin, et on était contre ça, on avait le gîte et le couvert. On a passé du temps avec ces gens-là, c'était vachement intéressant. Et on a rencontré un mec qui lidait un meet-up, quoi, donc Horacio, qui est aujourd'hui un très bon ami, qui est dans Mixit, on en reparlera plus tard. Mmh. Une association que j'ai cofondée avec des amis, qui est une conférence sur la tech et l'éthique qui se passe à Lyon. Et Horacio, ben, on le rencontre là-bas au Togo, et on voit ce gars-là au taquet, qui organise des meet-ups autour de Java principalement. Et on voit cette motivation des gens qu'il arrive à driver. Donc, tu vois, les meet-ups, il nous avait invité à faire une conf pour un de ces meet-ups, quoi, au Togo, donc à la capitale, Lomé. Et c'était un samedi matin, c'était 10h du mat, c'était à 30 km de Lomé. Et on se retrouvait avec plein de gens, plein de gens à cette conférence. Pas parce qu'on était là, juste parce que ces gens-là avaient l'habitude de se retrouver pour des meet-ups réguliers autour du langage, voilà, autour de la tech, quoi, voilà, les trucs qu'ils éclataient. Mais ce qui nous a fait halluciner, c'est que nous, à l'époque, avec mon copain, on était déjà impliqués dans les meet-up locaux, quoi. On était au Java User Group de Lyon, des choses comme ça. Mais t'aurais mis, alors je parle de Lyon, donc tu prends l'équivalent d'une ville à 30 km de Lyon, disons Givors pour ceux et celles qui connaissent. Donc le truc, vraiment la ville perdue. Tu mets un meet-up à 10h du mat à Givors, à côté de Lyon, je te promets, t'as personne, quoi. Il n'y a personne à ton meet-up, t'es quatre, tu vois le café, tu te casses. Et ben, à Lomé, t'avais plein de gens. Donc déjà, on trouve ce truc-là fort, en fait, l'esprit communautaire assez fort, voilà. Et une motivation, on va dire, des gens qu'on rencontre là-bas, assez incroyable, en fait. Donc ça nous inspire beaucoup. Et quelque part, tu vois, c'est là qu'on se rend compte que c'était presque plus inspirant que les tech bros auxquels on était un peu biberonnés.
Explique ce que c'est qu'un tech bro.
Silicon Valley, quoi. Hein?
Explique ce que c'est que l'expression tech bro.
Quoi, la figure classique du hipster qui bosse dans la tech, qui vient de la Silicon Valley, qui dit que la tech c'est cool, elle va sauver le monde. Je veux dire, aujourd'hui, bien sûr, que j'étais ce modèle-là, mais je pense que, comme je te l'ai dit à l'époque, j'étais peut-être un peu moins radical peut-être à ce moment-là, et que je pouvais être encore inspirée par des gens comme ça. Pas totalement, mais tu vois, voilà, ça pouvait potentiellement, c'est peut-être des gens encore que je lisais, des choses comme ça. Et je pense que quand je fais ce voyage en Afrique où j'y passe quelques mois, et pareil pour l'Asie, bah là, tu te rends compte qu'en fait, il y a une source d'inspiration à changer. Voilà. C'est des personnes que je te cite là. Elles me donnaient envie de partager du temps avec eux, de partager des discussions, de partager des sources, voilà, ce genre de choses.
C'est la découverte d'une informatique différente, quelque part, en fait.
D'une informatique différente, des gens qui vont pas essayer. Donc, Horacio, là, le pote dont je te parle, il voulait monter sa start-up aussi pour résoudre des soucis propres à son contexte. Donc, il était sur Lomé. Si je me souviens bien, sa start-up, c'était dans le monde de l'éducation. Enfin, bon, bref, des solutions informatiques, on va dire, pour le monde de l'éducation, sans être complètement technosolutionniste, d'ailleurs. Et du coup, je vois une approche de l'informatique différente où là, du coup, on n'est plus dans le truc de la French Tech de merde, là, tu vois, où tu vas pitcher ton idée en disant, ouais, tu vas sauver le monde, puis tu te retrouves avec un ticket quand même à 50K qui sert à rien, tu vois, enfin, un ticket à 50K, j'entends par là le fait que souvent, dans cet écosystème un peu pourri de la French Tech, t'as des gens qui vivent, en fait, hein, ça entretient des trucs, où t'as des gens qui vivent de petits tickets comme ça, où tu vas faire un petit soft qui sert à rien et qui sauvera jamais le monde, quoi. Bah ça, quelque part, donc le milieu entrepreneurial classique français, on va dire, bah ça, quelque part, tout ce que je viens de te décrire sur Lomé et ces gens qu'on rencontre, c'est à l'antithèse de ça. Donc c'est des gens qui sont informaticiens, informaticiennes, et qui vont prendre leur savoir pour résoudre des soucis concrets qu'ils ont chez eux et chez elles, quoi, tu vois. Et ils vont pas essayer d'aller dans l'autre sens, à savoir, bah tiens, on va essayer de trouver un truc qu'on va potentiellement sauver grâce à la tech. C'est pas ça. Ils ont des soucis, ils et elles ont des problèmes locaux, on va essayer de les résoudre avec les connaissances qu'on a. Donc quand même un gros, gros changement d'approche. Et la même chose en Asie. On passe quelques temps en Indonésie, à côté de Jakarta, d'époque. Donc vraiment le truc qui fait pas rêver, hein, une ville ultra polluée et tout ça. On y passe du temps, pareil, on donne quelques cours. Et là, on rencontre deux meufs, Mila et Nettie, qui ont à l'époque 20-22 ans, qui finissent leurs études, qui montrent des boîtes à côté. Elles sont entrepreneurs toutes les deux. Et le week-end, quand elles ont le temps, elles prennent leur scooter et elles vont faire des cours de coding dans Java, donc Java, l'île de Java. dans la forêt, quoi. Elles prennent leur scooter, elles montent sur les montagnes, elles vont donner des cours de coding aux mômes. Donc pareil, tu vois, en termes de motivation, elles ont une semaine de vacances par an, quoi, tu vois. Donc tu rencontres ces meufs là, qui nous donnent une bonne claque aussi sur le côté motivationnel. Enfin, tu vois, voilà, des gens qui te semblent quand même assez motivés par ce qu'elles font, quoi, et avec une posture différente vis-à-vis de la tech. Voilà, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'interview, et qui nous inspire beaucoup. Donc pour revenir aux sources d'inspiration, sur pourquoi c'est bien de défocusser un peu sur le modèle de la Silicon Valley, bah là on avait deux bonnes raisons, il y en a eu d'autres, mais deux bonnes sources d'inspiration qui étaient beaucoup plus intéressantes que ce à quoi on avait été exposé. Et on finit le voyage, on finit notre un an de voyage là, par un trip entre Los Angeles et New York. On loue une bagnole entre ces deux villes, donc on traverse les États-Unis et on passe pas mal de temps sur les deux côtes, un peu au milieu aussi. Et là, le rêve, tu vois, ce truc-là de se dire ah, les États-Unis c'est trop bien, machin, est cassé en deux mois, quoi. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'au milieu des États-Unis, Albuquerque, Texas, tout ça, on rencontre des gens qui vivent dans une pauvreté extrême. Vraiment, quoi, où on se dit bah c'est pas possible qu'un pays comme ça puisse accepter qu'il y ait des gens qui vivent dans ces états, dans cet état-là, quoi. Et puis on rencontre l'envers du décor de la Silicon Valley. On rencontre des gens, donc les fameux bus qui sont attaqués là de Google à San Francisco. On n'en voit pas forcément à l'époque, c'était il y a un peu plus longtemps que ça quand on y était, 2010-2011. Mais on rencontre quand même des gens qui sont vénères, quoi. Des gens qui sont vénères parce que t'as ces fameux tech bros dont je parlais, là, donc tous ces gens, tous ces ingénieurs qui bossent pour des startups de la Silicon Valley. Ou des plus grosses boîtes, bah, ils achètent des apparts à San Francisco pour passer le week-end, et le reste de la semaine, ils ont un autre appart à côté de leur siège, à Mountain View ou à San Diego, enfin bon bref, une autre ville de là où est leur siège de boîte, quoi. Donc ces gens-là, ils participent à la gentrification de San Francisco, ils participent au fait que des gens se cassent de San Francisco parce que ça devient trop cher. Et du coup, on rencontre aussi ces gens-là qui sont vénères de tous ces ingés hipsters qui débarquent et qui en gros contribuent à virer les pauvres, quoi. Et ça a été plutôt plutôt bien pour nous, en fait, de rencontrer ça. Tu vois, ça a cassé ce qui nous restait un peu de de rêve.
De rêve américain, quoi.
Autour de la Silicon Valley, ouais. Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord. Donc, c'est une pause d'un an avec voyage, vous rentrez. Et donc, ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là, et comment ça se passe, l'alignement quelque part entre tes valeurs et ton métier? Est-ce que tu démissionnes? Enfin, vous aviez déjà démissionné, mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là?
Bah, ouais. Oui, bah, carrément. Voilà. Du coup, on monte notre boîte, Ninja Squad.
D'accord.
On avait un pote avec qui on faisait le Java User Group, Cédric, et un autre pote, JB, qu'on connaissait bien sûr d'avant le voyage, et puis on leur propose de monter notre boîte. On était tous, plus ou moins, toutes et tous, avant notre voyage, donc oui, ils bossaient encore dans des modèles de SN, dans des modèles où on bossait pour des SS2I, si tu veux.
Des entreprises du numérique,
donc
on va dire.
Des boîtes de services.
Des boîtes de services du numérique, ouais.
Voilà. Et on s'est dit, bah, pourquoi déjà, en fait, avant de penser à créer un produit incroyable où on n'avait pas forcément d'idée fabuleuse, hein, on s'est dit, on va juste se vendre nous-mêmes, en fait. On va juste se vendre nous-mêmes. C'est-à-dire que ce que je fais pour ma boîte actuelle, ou ce que je faisais pour ma boîte actuelle avant de partir, de vendre des services, enfin, de me vendre en tant que développeuse, ou ce que faisait Cédric en tant que développeur pour bosser pour sa boîte à lui, ben on pouvait très bien le faire nous-mêmes. Donc on a monté notre boîte qui s'appelle Ninja Squad, et qui est une boîte de développeurs-développeuses. Voilà, il n'y a pas de manager, on n'a pas de local, on bosse tous en remote, on a tous le même salaire, même s'il y a 12 ans d'écart entre le plus jeune et le plus vieux. Donc c'est un principe, on est basé sur des principes à la SCOP, quoi. Voilà, comme une société coopérative. Mmh. Même si on n'est pas une SCOP, on est une SAS, à statut un peu scopien. Parce qu'à l'époque, voilà, je pense qu'on n'avait pas le recul qu'on a peut-être aujourd'hui sur cette structure-là. Enfin bon, bref, on essaie de trouver un truc qui nous correspond et on monte une boîte où les statuts sont le plus horizontaux possible entre nous et où on choisit nos clients et où on bosse un peu comme on a envie, en fait. Et donc oui, évidemment, moi, j'identifie le voyage, le break d'un an comme étant la raison principale pour laquelle ça m'a poussée à faire ça. Mais je pense que, évidemment, le voyage joue beaucoup, hein. Tu vois, les gens que tu rencontres, les gens qu'on a rencontrés en Indonésie, tu vois, pour revenir à ces filles dont je te parlais, là, qui finissaient leurs études, montaient leur boîte et donnaient des cours le week-end dans la jungle, là, des mômes. Ces filles-là, la notion de risque, elles l'expérimentent tout le temps, quoi, tu vois. Nous, le fait de se dire, on monte notre boîte, est-ce que c'est vraiment risqué ou pas, bah, si tu veux, ça, c'est une question qui fait un peu rire, quoi, quelque part, hein. Genre, monter ta boîte en France quand t'es trois techniciens, techniciennes, qui bossent déjà depuis quelques années, le risque, il est mineur, quoi. Ça, quand même, on se plante, on arrête et on va bosser, on va faire de l'alimentaire ailleurs, quoi, tu vois. Donc, je pense que ça nous a boosté un peu, en fait, de rencontrer ces gens-là et de prendre conscience de notre statut d'hyper privilégié. D'hyper privilégiés, de gens qui bossent dans la tech, qu'on était tous développeurs, développeuses, bah évidemment que c'est facile de trouver du job, quoi. Quand bien même tu ne bosses pas dans des boîtes éthiques, tu vois, quand bien même tu ne focalises pas à trouver des clients éthiques, entre guillemets, c'est facile de trouver des clients et de te vendre toi-même et du coup de choisir ce que tu fais avec ton argent. Donc nous, par exemple, bosser moins, ne plus facturer 5 jours par semaine, voilà, ce genre de choses, quoi.
D'accord. Alors tu viens de parler de boîte éthique. Souvent, tu parles de tech éthique, de technologie éthique. Comment tu définirais la technologie éthique ?
Ouais, alors en plus, c'est intéressant d'en parler parce que c'est un buzzword depuis quelques temps. Hein. Quelques années, on parle de numérique responsable, de green IT, machin. Bref. Alors, la définition que je pourrais en donner, c'est... déjà, c'est le fait de la tech éthique, c'est déjà de se rendre compte des implications de la tech. Voilà. Quand t'es technicien et technicienne, développeur, développeuse, c'est bien de se poser la question des implications de la tech sur la société et d'avoir cette distance, en fait, par rapport au côté trop enjoué qu'on pourrait avoir en tant que développeur ou développeuse sur ces métiers-là, quoi. Donc avoir un peu de distance, être un peu modeste, humble on va pas sauver le monde, quoi. Voilà, déjà d'avoir un peu ce techno-discernement, je pense que c'est le premier aspect de ce qu'on pourrait appeler une tech éthique. Et évidemment après d'avoir conscience des externalités négatives, en fait, hein, de la tech aujourd'hui sur le monde, quoi, et au niveau environnemental et au niveau social et sociétal. Donc moi je bosse chez Fairphone, on en reparlera, mais voilà, on a tous et toutes, en tout cas beaucoup trop de smartphones dans nos poches, et ce smartphone, c'est un outil qui bien souvent contribue à mettre des gens à risque loin de chez nous, des gens qui vont bosser à récolter le cobalt dans des mines artisanales, des gens qui assemblent les téléphones en Chine et qui bossent 80 heures par semaine parce qu'ils ou elles sont mal payés. Voilà. Et donc, avoir conscience de ces effets en fait négatifs sur le monde, c'est aussi un autre angle de ce que je peux appeler la tech éthique. Je crois pas beaucoup, enfin, je suis souvent invitée, hein, en tant que Fairphone, évidemment, t'imagines bien qu'on reçoit une invite par semaine d'une table ronde sur Tech for Good et tout ça. Enfin bon, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis assez vigilante là-dessus. Je choisis un peu où j'interviens. Parfois, je vais intervenir dans des milieux très ennemis où je me dis, bon, ça vaut le coup que je mette un petit coup de pied là-dedans et tout. Mais mais quand j'y vais, en tout cas, dans ces milieux, qui pourrait être accusé de faire un peu de greenwashing, c'est exactement le discours que je tiens, quoi, de pousser les gens à essayer de prendre du recul par rapport à la tech, en fait. Par rapport à ça, là, il y a un an, je crois, il y a l'ex-président de Framasoft, Alexis Kaufmann, qui m'avait invité à faire une conf. Alors là, c'était pas dans un milieu hostile non plus, on était dans l'éducation nationale, mais face à des gens qui bossent, je sais pas comment t'appelles ça, mais aux responsables du numérique, on va dire, l'éducation nationale, tu vois.
Sans doute la direction nationale de l'éducation numérique.
Ouais, un truc comme ça. Et puis, tu avais plein de gens qui bossaient dans le numérique localement, tu vois. Donc là, ils se retrouvent tous à Lyon. On fait une conf devant tous ces gens-là qui font des choses autour du numérique au niveau de l'éducation nationale. Je la fais courte, mais c'est comme ça. Et Alexis, super, merci pour l'invite. Ça a bien servi parce que je me retrouve avec ma pote. J'ai une pote avec qui je fais quelques confs sur les low-tech, tout ça. Et en fait, on fait cette conf, et dans la conf, on dit, bon, bah, ouais, peut-être qu'en fait, c'est cool, ça serait intéressant que dans vos positions, vous posiez la question de l'intérêt réel du numérique dans les écoles, d'avoir des tablettes par milliers qui s'entassent dans des classes où les gens ne sont pas formés, les profs, j'entends. Et du coup, bah, les tablettes, elles servent pas à grand-chose. On se retrouve avec des profs qui sont toujours sous-payés, pas assez nombreux et nombreuses, et avec des établissements qui sont pas chauffés. Enfin bon, bref. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre le chauffage dans les écoles, de payer mieux les profs et qu'il y en ait plus, quoi? Tu vois? Enfin. Et là, je ne sais pas si on a beaucoup d'applaudissements quand on a dit ça, mais le nombre de gens qui sont venus me voir après la conf en disant « Ah ouais, mais c'est… » Voilà. On sent qu'il y a quand même des gens, même dans des positions clés, qui se posent la question de leur propre impact, en fait, sur le monde. Et c'est ça, en fait, que je veux trigger… Enfin, que j'aimerais…
Mettre en avant.
Voilà, mettre en avant. Et puis, j'aimerais enclencher ça, en fait, chez les gens, quand je leur parle et que j'interviens dans des tables rondes et que je fais des talks, machin. J'en fais pas tant que ça non plus, hein. Mais quand je fais ça, je veux vraiment trigger… Enfin, que les gens se posent cette question-là.
La question, c'est en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de la tech tout le temps pour
Est-ce
résoudre les
qu'on a
problèmes?
besoin de la tech? Est-ce qu'on a besoin de la tech?
Et de
Et en
laquelle
tout cas,
tech?
qu'on soit bien toutes conscientes et tous conscients de l'impact qu'on a en fait. D'une,
D'accord.
et une fois qu'on a conscience de ça, est-ce que ça serait pas intéressant de se prendre un peu de recul, quoi? De prendre un peu de recul. Ce techno-discernement dont je parlais tout à l'heure, qui était mon premier angle quand tu m'as demandé de définir ce qu'était la tech éthique. Voilà, donc c'est comme ça que je te la définirais. Après, évidemment, on peut aller plus loin, hein. Une tech éthique, pour moi, c'est une tech plus inclusive. Les tech bros, bah, faut qu'ils se cassent un peu aussi. Tu vois, faut qu'on arrive à
Donc,
intégrer
en
d'autres
l'occurrence,
gens que des tech bros.
là, on parle du traditionnel, on va dire, homme blanc,
Ouais, 6.
cis, enfin, cisgenre, voilà,
Ouais,
entre 30 et
il n'y a
60
que des
ans.
gens comme ça, tu vois. Alors
Oui.
que. Il y a 10 ans. Enfin, il y a longtemps, du coup, il y a peut-être pas 10 ans, mais des années, il y a un podcast de codeurs, principalement autour de Java, qui s'appelle Les Casse Codeurs. Il y a un mec que j'aime beaucoup qui l'anime, qui s'appelle Emmanuel Bernard, et qui m'invite sur un podcast autour de la diversité chez les codeurs et les codeuses, machin. Et j'interviens avec un mec qui est gay, et moi je suis une femme, voilà, je caricature un peu. Et lui comme moi, on disait, bah ouais, en fait, moi j'ai jamais bossé quasi jamais avec des meufs, lui jamais avec des gays. J'ai bossé avec un Salim dans toute ma carrière, alors que j'ai grandi à l'école avec la moitié de gens qui sont d'origine du Maghreb. La France a un problème là-dessus. Enfin, en tout cas, on peut même élargir aux Western countries en général, quoi, tu vois, aux pays occidentaux. On a un problème de diversité dans la tech. On a vraiment ce problème-là. En Afrique et en Asie, justement, l'autre claque que j'ai prise aussi, c'est qu'en Asie, j'avais 60% de filles dans mes cours, quoi. Donc, l'Indonésie, c'est le premier pays musulman du monde. Les meufs, elles sont présentes dans le milieu de la tech, quoi. Alors on pourrait avoir avec nos putains de stéréotypes à la con, là, genre, ah, les pays musulmans, les femmes sont voilées, elles sont sous domination masculine. Tu parles, pas du tout. Enfin, pas du tout. Genre, enfin, je veux dire, sur ce point-là, sur ce point de vue-là, elles sont beaucoup plus nombreuses que nous dans nos pays occidentaux, quoi. Donc, pour revenir, là, je finis un peu, c'est un peu long, hein, mais ma définition de la tech éthique, c'est aussi une tech plus inclusive et qu'on essaye d'étendre ce milieu-là à des gens qui vont nous faire du bien, quoi, des gens qui ressemblent pas aux 95% qui l'occupent aujourd'hui, quoi.
Alors, le temps passe très vite, mais
ouais, désolé, ouais,
non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais il
n'y
a pas de souci. C'est ton émission, en fait. Mais avant de parler de Fairphone, et aussi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Duchesse et de Mixit. J'ai quand même une question par rapport à ce que tu viens de parler. Est-ce que toi, en tant que femme dans la tech, est-ce que tu as des soucis, que ce soit des soucis de sexisme, des soucis professionnels ou autre? Est-ce que t'as un vécu par rapport à ça? Je pense que oui, mais
ouais,
lequel?
ouais. Bah écoute, alors. C'est toujours problématique. Je pense pas que j'ai eu des soucis qui m'ont bien traumatisé, mais je vais t'en citer quelques-uns. Mais par contre, je veux vraiment pas dire que ça arrive pas parce que j'ai tellement lu de gamines chez 42 qui se font emmerder par des gars. Voilà. Donc moi, l'expérience que j'ai eu peut-être beaucoup de chance, mais je sais qu'il y a plein de soucis qui arrivent aux quelques meufs qui sont dans la tech, en tout cas en France. Moi, il m'est arrivé des trucs. on va dire des blagues qui m'ont jamais fait rire. J'ai mon premier PDG de la fameuse boîte, là, tu sais, la boîte où éditeur bancaire.
Bancaire, ouais.
Ouais, le mec qui me recrute, donc à un moment donné, le PDG, quoi, voilà. Et il m'avait fait une blague, donc je faisais du Java à l'époque. Il m'appelait la femme objet. Donc Java, c'est un programme.
Ouais, c'est une blague d'informe. Ouais, ok.
Ouais. Voilà, belle blague. Et lui, il n'était même pas informaticien, donc il a été bien inspiré par les techbro, je pense. Donc des blagues comme ça, donc il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, voilà. Après, j'ai eu un autre gars qui était mon chef quand je bossais dans une DSI. J'avais bossé quelques années dans une DSI.
Direction informatique.
Ouais, voilà, direction informatique, ou un service informatique, donc pas pour forcément une ESN. Ouais, un mec ultra sexiste, tu vois, ultra sexiste, en train de faire tout le temps des blagues. Et vu qu'il y avait que des gars dans mon équipe, alors tous ne réagissaient pas, ça c'est sûr, mais quelques-uns réagissaient, et du coup ça crée une ambiance un peu délétère, où genre, bah ouais, ça, c'est naze, quoi. Enfin, tu vois, quand tu fais des blagues sexistes tout le temps, à une réunion sur deux, bah... L'ambiance, elle est pas géniale.
Elle est pourrie, ouais.
Parce que c'est aussi dérangeant pour des gars bien, quoi, tu vois. Des ambiances comme ça. Donc, j'ai connu ça. Ça n'a pas été la majorité de ma carrière, parce que tu vois, par exemple, quand je te parle de Ninja Squad, bah, évidemment que là, c'est trop bien. Chez Fairphone, c'est incroyable. Enfin, voilà, aujourd'hui, je suis dans des environnements. Là, par exemple, typiquement Fairphone. Là, juste avant de faire le podcast, j'ai passé une heure et demie avec le headhunter, donc le recruteur qui va recruter notre prochain ou prochaine CEO, parce que notre CEO vient d'apprendre.
Le responsable technique.
D'annoncer qu'elle se casse.
La responsable présidente.
Voilà, CEO, c'est PDG.
PDG, ouais.
Et du coup, elle se casse, en fait. Elle s'appelle Eva, l'actuelle PDG de Fairphone part. D'ailleurs, en étant très inspirante, parce qu'elle part en disant, bah, moi, j'ai besoin de temps pour moi, donc je pars. Je trouve ça super, tu vois, en termes d'honnêteté. Et donc, j'étais il y a une heure avec le recruteur, et qui me dit, ouais, c'est quoi tes critères, quoi ? C'est quoi tes critères pour la nouvelle personne qui va remplacer ça, bah, tu vois, je lui dis, bah, moi, un non-male, donc quelqu'un qui n'est pas un mâle 6, ça serait quand même bien. Bah, le mec, il note, et, tu vois, il dit, ouais, c'est vrai que t'as raison. Mon collègue qui était à côté de moi dit, bah, bien sûr, évidemment. En fait, tu vois, c'est presque plus un sujet, en fait. Et d'acte, à l'époque où j'avais ce gars-là sexiste, là, ce chef technique, ça aurait été un sujet. Ça aurait été un sujet où le mec, il n'aurait jamais compris pourquoi c'était intéressant, comme CEO, d'avoir quelqu'un qui ne soit pas un mâle blanc cis-hétéro. Bah, l'environnement de travail dans lequel je suis aujourd'hui, je mentionne le critère, et ben, c'est pas un sujet de discussion où la personne ne comprend pas, quoi. Il y a de la discrimination positive. Ça aussi, on peut en parler, hein. Il y a des organisations techniques, des boîtes qui sont contre la discrimination positive. Pour moi, je pense que ça peut aider à un moment donné. C'est pas la solution ultime, mais si ça peut aider à un moment donné une organisation à attirer plus de personnes différentes dans cette boîte, ça peut être intéressant, quoi.
Oui, tout à fait. Ça, c'est clair.
Et une boîte tech comme Fairphone, je trouve ça vachement intéressant de mettre une personne qui n'est pas un mâle blanc hétéro cis.
Là, on vient parler un petit peu de diversité. Il y a un point aussi que tu voulais absolument aborder, et je tiens à ce qu'on l'aborde, parce que le temps quand même file. Et tu as plusieurs fois parlé de Fairphone. Donc déjà, expliquer ce que tu fais à Fairphone, ce qu'est Fairphone. Et surtout, la partie, tu me disais, quand on a échangé, la tech, elle est néocoloniale. Mmh. Alors, est-ce que tu veux expliquer en quoi elle est néocoloniale et en quoi Fairphone essaye de traiter ce problème ?
Ouais. Alors, pourquoi la tech est néocoloniale ? Tout à l'heure, je te parlais du cobalt, hein, des gens qui minent le cobalt dans des conditions pas satisfaisantes au Congo, etc. Alors là, je te renverrai, je te donnerai pour ton lien sur la description du podcast. On a fait intervenir chez Mixit, donc la conférence dont je m'occupe, quelqu'un qui a très très bien parlé de ça. Donc je te renverrai à sa conférence. Il a fait une keynote, cette personne-là, qui explique un peu ce pourquoi. Donc il s'appelle David Maenda Kitoko. Et il a fait sa keynote, le titre de la keynote, c'est « Pour une écologie décoloniale du numérique ». Et en fait, son propos, je le reprends, hein, je le cite parce qu'il parle mieux que moi de ce sujet-là. Son propos, c'est le fait de dire qu'au final, on est toutes et tous, avec ce que je te disais tout à l'heure, avec des téléphones dans les poches, et on se pose rarement les questions de d'où vient ce téléphone et de l'effet que ça a sur le monde entier, sur ces gens-là qui minent le cobalt au Congo. Et quand on se pose la question, si jamais on fait l'effort de se poser cette question-là, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a des relations qui ressemblent fortement entre les pays occidentaux et les pays, ces pays-là d'Afrique que j'ai cités, comme le Congo, comme l'Angola, etc., où on est dans une relation assez similaire de ce qu'on a pu entretenir, nous, la France, quand on était un pays colonial. Donc c'est pour ça qu'on parle de néocolonialisme, de liens qui ressemblent fortement à l'époque où officiellement la France avait des colonies. Et pour moi, le numérique aujourd'hui, enfin pour moi et pour lui du coup, le numérique aujourd'hui est la cause de plein de problématiques qui se passent très loin de chez nous, comme au Ghana, en Angola ou au Congo, et qui sont mises en place par un néocolonialisme notoire, quoi. Ce gars-là, David Maenda Kitoko, donc qui est originaire de RDC, République démocratique du Congo, lui, il est réfugié politique en France, et il raconte dans sa keynote toute son histoire, ses combats pour justement la prise de conscience entre le numérique, le colonialisme, les minerais de sang, les conflits dans son pays, à travers son association qui s'appelle Génération Lumière, et il explique, on va dire, que la première étape, c'est la prise de conscience, que déjà, on prenne toutes et tous conscience de ça pour éventuellement agir de manière différente. Et ce que fait Fairphone, bah, c'est de mettre la lumière sur ça, déjà. Donc de mettre la lumière sur bah, d'où viennent ces minerais-là et d'essayer de sourcer ces minerais de manière différente, quoi. Donc sur un téléphone, t'as à peu près 50 minerais. Nous, on travaille aujourd'hui que sur 14. Donc c'est pas encore 100% des minerais, ça c'est sûr, parce que c'est très très long de cliner une filière, quoi. Et le premier truc qu'on a fait sur le Fairphone 1 en 2013, c'était d'incorporer du tungstène et de l'étain conflict-free, donc qui ne génère pas des conflits armés dans les pays que je viens de citer. Et après, on a fait d'autres choses. Je pourrais t'en parler plus longuement, mais je pense que là, j'aurai pas le temps. Mais l'objectif, c'est d'insuffler cette théorie du changement, donc prise de conscience, montrer que c'est possible de faire différemment et pousser l'industrie à agir de manière plus responsable. Quand je dis l'industrie, c'est des gens qui font aussi des produits électroniques, quoi. Donc Fairphone, c'est ça.
Alors je renvoie aussi les personnes qui nous écoutent à l'émission 118, hein, libreavoue.org/118, dans laquelle tu étais intervenu donc avec Gaël Duval pour parler de Fairphone et de Murena, donc deux projets différents. Donc là, les gens qui voudront en savoir plus sur Fairphone pourront t'écouter donc dans l'émission 118 sur libreavoue.org. Il nous reste 5-6 minutes à peu près. On va pas faire de pause musicale, je préviens les gens en régie. Je voulais quand même que tu, avant les questions finales, je voulais quand même que tu parles un petit peu de tes... Alors t'en as parlé rapidement, mais tes engagements et notamment expliquer un petit peu ce que fait Duchesse France et puis aussi cette fameuse conférence à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister pour la première fois cette année, Mixit.
Ouais. Alors, bah, Duchesse France, c'est une association qui travaille pour la visibilité des femmes tech. Et Mixit fait ça, enfin, on œuvre depuis une dizaine d'années aussi là-dessus pour qu'il y ait plus de diversité dans la tech. Mais Duchesse France a un travail plus de fond toute l'année. Là-dessus, quoi. Donc, à travers l'organisation d'événements, du marrainage, des choses comme ça. Donc, le marrainage étant le fait que des personnes qui rejoignent le milieu de la tech bah, puissent avoir des personnes, des marraines, qui les aident un peu à répondre aux questions qu'elles puissent avoir. Si jamais elles ont envie de faire des talks à des conférences, bah, elles soient coachées par des marraines et tout ça. Donc, ça, c'est Duchesse France. Et Mixit, on travaille à la fois sur la diversité dans la tech, mais aussi sur plus d'éthique dans la tech, quoi. Donc tous les thématiques. Bah, David, le mec dont je te parlais tout à l'heure de Génération Lumière, qui vient de RDC, bah typiquement, il avait une keynote cette année à Mixit, quoi. Donc depuis le début, Mixit a toujours essayé d'œuvrer pour essayer de mettre en avant les impacts négatifs du numérique, en tout cas de se poser ces questions-là sur notre rôle, on va dire, sur le monde et les externalités négatives du numérique, surtout à des gens qui sont vraiment dans ces métiers-là, quoi. Donc on va dire que la plupart des gens qui viennent à Mixit, c'est quand même des développeuses, des développeurs, des business analystes, voilà, des gens qui ont ce profil-là. Donc ça, c'est pour te décrire rapidement ce qu'est Mixit et Duchesse France.
Alors je vais préciser effectivement ce que moi j'ai adoré à Mixit, outre l'organisation parfaite, c'est effectivement ce mélange à la fois de présentation technique, on peut dire assez classique, et puis ce que vous appelez les aliens, c'est-à-dire des présentations qui nous ouvrent un peu le cœur et les yeux. Donc par exemple, une présentation sur comment travailler avec une personne autiste dans une entreprise. Il y a effectivement la keynote dont tu viens de parler. On a eu quelqu'un qui a fait de la magie aussi en keynote de finale. Et donc c'est ce mélange-là qui est vraiment très intéressant et que moi j'ai beaucoup apprécié. C'est pas qu'une conférence technique, c'est une conférence technique et sociétale, en fait.
Il y avait la fresque du numérique, la fresque du féminisme. Oui.
Il y avait plein de choses, oui.
Tu pouvais ne pas faire tech à Mixit.
Exactement, ouais. Alors, on approche bientôt de la fin de l'interview, parce que juste après, on a un sujet court qui est déjà enregistré, donc je connais la durée.
Ouais, pas de souci.
Donc, Donc on va finir par les deux dernières questions. Alors l'avant-dernière question est un peu traditionnelle, même si c'est peut-être un peu compliqué. C'est est-ce qu'en moins de 2 minutes, tu peux résumer les principaux messages que tu voulais faire passer?
Ouais. Et je vais en profiter aussi pour énoncer exactement ce que je fais chez Fairphone, parce qu'effectivement, j'ai oublié,
oui.
je viens de me rendre compte que je t'ai pas bien répondu, mais ça va être dans la réponse que je vais te faire maintenant. Donc, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu m'as demandé de définir ce qu'était pour moi la tech éthique, donc ça passe par le techno-discernement. Donc, c'est une des idées principales que j'aimerais faire passer, que les personnes qui écoutent aujourd'hui, si elles ou ils sont dans une position où elles œuvrent, dans la tech, bah, qu'on ait cette distance-là par rapport à la tech. Et puis l'autre idée, c'est d'arriver à insuffler une tech qui peut être différente, donc par exemple plus durable. Ça peut être vachement intéressant qu'il y ait des gens aujourd'hui qui se disent que ça peut être chouette de faire de la maintenance de produits logiciels, quoi. Moi, c'est ce que je fais chez Fairphone, du coup. Je travaille sur les produits logiciels long terme qui tournent sur les téléphones, donc Android, quoi. Nous, on fait de l'Android principalement. On essaie de pousser aussi des solutions, des OS open source sur les Fairphone qu'on fait, parce qu'on pense que l'open source est un levier ultra intéressant pour la longévité des produits. Et donc tout ça, ça demande de la recherche, ça demande des expertises, etc. Et donc s'il y a des gens qui pensent avoir des compétences là-dedans, bah, y a un boulevard, quoi. Il y a un boulevard pour créer des produits qui durent, quoi. Moi, quand j'étais dans ces fameuses ESN, ce qui éclatait tout le temps les gens, c'est de travailler sur des technos nouvelles, de travailler sur de l'innovation, etc. Bah, pourquoi ça éclaterait pas de bosser sur de la maintenance de produits, quoi? Faut qu'on rentre dans l'ère de la maintenance. Moi, j'y crois quand même fortement. Donc ça, c'est vraiment l'idée que j'aimerais faire passer aujourd'hui.
D'accord. Et dernière question, alors qu'on pose rarement, mais qui me paraît là intéressant vu la conversation, quelle lecture, série, podcast ou autre aimerais-tu conseiller aux personnes qui nous écoutent, pas forcément en lien avec tes activités, hein, ton ou tes coups de cœur actuels en gros?
Ouais, eh ben écoute, plein, hein. Moi, j'aime bien les bouquins de Philippe Biwix, qui a écrit il y a une dizaine d'années, L'âge des low-tech. Un bouquin moins connu, La machine est ton seigneur et ton maître, de Jenny Chan et Xulu Ziyan. Tout ça, je te donnerai les
liens. Oui, je veux bien, oui.
C'est sur les conditions de travail chez Foxconn. Donc là, ça revient justement aux impacts négatifs.
C'est en Chine, les chinoises.
Techno-féodalisme de Cédric Durand, donc il y a un livre qui explique très bien justement comment la tech est un nouveau mode de féodalisme. Écologie du smartphone, qui est un bouquin qui a été écrit collectivement et sous la direction de Laurent Salard, Alexandre Monin, Nicolas Nova. Donc pareil, plein d'angles différents sur les impacts du smartphone. Technologie partout, démocratie nulle part, ça c'est aussi un bouquin que j'aime bien, qui est écrit par des gens qui sont plus ou moins derrière les moutons numériques, donc un petit peu technocritique, qui va écrire un plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. Et dans les podcasts, y en a deux que j'aime bien, Techologie et Tech Won't Save Us. Donc Technologie, c'est français, et c'est voilà, un podcast qui parle de la part du numérique dans le désordre climatique, qui parle aussi des impacts négatifs sociaux du numérique. Donc ça, j'aime bien ce podcast, très généraliste mais bien. Et Tech Won't Save Us, c'est pas un podcast en français, mais pour celles et ceux qui ça fait pas trop chier d'écouter des trucs en anglais, bah c'est un podcast assez technocritique sur et notamment sur les big tech. Paris Max qui fait ça, que j'aime beaucoup aussi. Voilà ce que je te citerai.
Bah écoute, merci Agnès, nous enverrai les références qu'on rajoutera sur le site libravo.org.
Pas de souci.
Bah écoute, c'était un grand plaisir. Donc Agnès, qui était notre troisième invitée, donc Parcours Libris. Hein, donc je rappelle qu'Agnès est responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, cofondatrice de Ninja Squad, de la conférence Mixit et membre de l'équipe de Duchesse France. Bah, Agnès, je te souhaite une belle fin de journée et un bel été. Et à bientôt.
Super, merci Frédéric de l'invitation.
Avec plaisir. À bientôt.